I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
Whoever's behind this operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman. Craftsman. Craftsman.
Le salon impromptu.
Bonjour à toutes et à tous, c'est dimanche, il est midi, ça y est, c'est plus l'heure de la messe, laissez tomber le prie-Dieu et prenez place dans le salon impromptu, laissez-vous emporter par la conversation, peut-être même renier vos idées préconçues ou cheminer vers des terres inconnues, qui nous amène aujourd'hui sur les rivages de l'enfance, ou plutôt je devrais dire sur les mirages de l'enfance, une émission qui pourrait s'appeler « Grandis un peu, arrête de faire l'adulte », peut-être. Mais encore une injonction à la sauce adulte. Il n'y a pas d'enfants uniquement des infantilisés. Enfin, une émission qui m'a été inspirée par la lecture d'un livre qui s'appelle « La fabrique de l'enfance », sous-titré « Anthropologie de la comédie adulte » par Sébastien Charbonnier, édité aux éditions Lundi Matin. Un livre qui s'attache à mettre en lumière l'une des dominations, l'un des rapports de pouvoir les moins pensés, à savoir la domination par l'âge, mais plus encore par l'ancienneté. Alors je tiens tout de suite à dire que c'est un livre très très stimulant, bah, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette émission, et qui évide les évidences, qui dégonfle quelques illusions, et qui renverse littéralement certains points de vue. Alors bien sûr, il y a une ribambelle de questions qui m'est venue et que j'aimerais poser ici. Qu'est-ce que ce rapport de domination par l'âge? Comment est-il intériorisé par chacun de nous? Comment on se vit en tant qu'adulte, en tant qu'enfant? Qui a réellement besoin de l'autre? Qui est vraiment impuissant? Pourquoi personne ou très peu de monde en parle ou en a conscience même? Et surtout, comment on peut s'émanciper de ces catégories qui maintiennent l'oppression? Et puis aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est fait? Comment on fait? Comment on peut faire autrement? Alors, mais voilà, on est dans une émission qui s'appelle le salon impromptu, c'est-à-dire une conversation. Et ça ne se passera sans doute pas comme ça. Toutes ces questions peut-être ne seront pas posées ou en tout cas restées en suspens. Puisque pour en discuter, il y a autour de cette table trois personnes. D'abord le fauteur de troubles, Sébastien Charbonnier, enseignant, chercheur en philosophie de l'éducation. Ça te va ?
Ça me va.
Salut Seb.
Salut.
Avec nous aussi Sonia Vidal, qui est fondatrice de La Petite Maison, une maison d'assistante maternelle. D'assistant et aunt.
Voilà.
Ouais. Maternelle. Mais pourquoi tout ne serait pas au féminin?
Ah.
Pourquoi le neutre ne serait pas féminin? Alors, pour...
Une bonne question.
Pour les enfants de 1 à 6 ans, vous êtes au Vence,
ouais.
Ouais, et qui se fondent sur des pédagogies alternatives, c'est ça qui... T'auras le loisir.
J'aurai le loisir d'en parler, ouais. Mais oui, en tous les cas, qui s'inspirent de pédagogies différentes, on va dire.
Ok, ben, bienvenue.
Merci.
Avec nous autour de ce micro aussi, Antoine Faure. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors, tu es un être de 14 ans. Considéré au choix comme un non-adulte, comme un enfant, adolescent. Et bah, je t'ai invité, tu as fait un stage la semaine dernière.
Ouais.
Ici, et bah, ton point de vue est très intéressant, puisqu'on va parler aussi bah, de ce que c'est que de ne pas être adulte. Bienvenue à toi.
Merci.
Autour de ce micro, enfin derrière la vitre aussi, mais Plex, ça t'est ouvert. Donc Plex, à la technique.
Bonjour à tous et à toutes.
Alors, je rappelle un tout petit peu le principe de l'émission, c'est que c'est donc une conversation, vous pouvez toutes et tous poser des questions à l'un et l'autre, il n'y a pas que moi qui ai la parole. Mais quand même, d'abord, je vais poser une première question, peut-être, alors je vais la poser à tous, mais je vais commencer par Antoine. Ouais. Pour toi, Antoine, qu'est-ce que c'est qu'un enfant et qu'est-ce que c'est qu'un adulte?
Bah, un adulte, c'est une grande personne qui est censé apprendre des choses à l'enfant et le faire grandir.
Ouais.
Et un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore les compétences et que, grâce à l'adulte, il devient un adulte.
Ok. Ça, c'est quelque chose que tu penses vraiment ou que tu as lu quelque part? C'est comme ça que tu le...
Bah oui. Enfin, si on prend le rapport entre l'enfant et l'adulte, l'adulte, il doit servir à l'enfant pour grandir.
D'accord. Une sorte de tuteur, en fait.
Oui.
Comme... Ok.
Ouais.
Ok, merci. Qui veut se lancer? Vous jetez des regards. Oui, j'ai pas dit. En fait, Sonia, c'est Sébastien qui a proposé de t'inviter. Voilà, pour que les choses soient aussi claires. Alors, bah, Sonia.
Ah, moi, je trouve que c'est une grande question. En tous les cas, si je pars de mon point de vue de pédagogue, un adulte a la responsabilité des enfants. Et les enfants ont la responsabilité de grandir et de se forger auprès de nous. Mmh. Et nous, on est là en tant qu'adultes pour les entourer, les accueillir, les soutenir, les écouter. Voilà, on va parler de bienveillance, bientraitance, enfin, voilà, d'être autour d'eux.
Hmm. Sébastien.
Alors, moi, je vais faire une réponse un peu plus douteuse.
Mm-hmm.
C'est ce que m'inspire ces deux catégories, c'est ce qu'inspire souvent les catégories aux philosophes, à savoir méfions-nous du fait d'avoir mis beaucoup d'êtres humains qui sont tous singuliers et différents dans deux cases. Et là, en l'occurrence, le critère souvent, c'est le critère de l'âge. Et il me semble, en tout cas c'est ce que mes travaux, les travaux des anthropologues, des sociologues mettent en avant, que ce sont des catégories d'abord qui sont inventées par les personnes qui se définissent elles-mêmes comme adultes. Mmh. Donc déjà il y a une asymétrie dans l'usage des catégories parce que c'est les adultes qui ont globalement inventé les catégories. Et il me semble que la manière la plus honnête de définir les enfants, c'est en fait, là je me parle du point de vue des adultes qui ont créé cette catégorie, des personnes qui ne sont pas encore des adultes. C'est-à-dire que voilà, l'enfance comme salle d'attente ou purgatoire d'un certain état de l'humain, inachevé, incomplet, imparfait, pas complètement compétent par exemple, et dont la meilleure chose qui pourrait lui arriver, c'est de devenir un adulte. Donc c'est là où... on peut être suspicieux du point de vue d'un regard critique, puisque ce sont deux catégories qui, d'emblée, deviennent hiérarchiques. Un adulte, c'est mieux, c'est plus parfait, c'est plus complet qu'un enfant. Et donc, finalement, les enfants ont à devenir adultes. Ça peut être, pas toujours, mais le regard critique va souligner ça, se conformer à une certaine image de l'adulte.
C'est un peu, alors je disais tout à l'heure, quand Sonia, tu me disais pas forcément assistante maternelle, puisque le neutre c'est le masculin en français, finalement si je fais cette analogie là, l'adulte serait le neutre.
Oui, bah ça c'est, je pense que tu as tout à fait raison. Hein, c'est une remarque qui est centrale dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, à savoir le masculin ou les hommes a d'emblée été l'universel dans l'histoire de la pensée occidentale, et le féminin c'est celui qu'on va particulariser en disant bah là il y a des choses à spécifier. C'est pas un homme comme un autre, la femme. Donc c'était ça l'impensée occidentale dont on est revenu quand même. Grâce à Simone de Beauvoir et à tous les travaux féministes. Et on peut dire, effectivement, il se passe un peu la même chose avec adulte-enfant, c'est-à-dire que la forme normale de l'humain, c'est l'adulte, et on pense tout de suite l'enfance par toutes les différences, depuis toutes les différences qu'il y aurait par rapport à un fonctionnement, ou en tout cas une description jugée comme évidente ou naturelle de l'humain, qui est la forme adulte.
Pardon. Du coup, moi, j'ai envie de rebondir là-dessus sur le positionnement, c'est-à-dire... comment l'adulte va se positionner face à l'enfant. Et c'est tout là l'enjeu, par exemple, à la petite maison. On n'est pas... on va autant apprendre de l'enfant qu'il va apprendre de nous. Et on est dans un rapport d'altérité. Après, on a un rapport de responsabilité parce qu'on est plus âgé, parce qu'il y a des choses qu'on sait ou parce que, simplement, on peut maîtriser certaines choses qu'il ne peut pas maîtriser. Parce que son cerveau n'est pas encore en pleine maturité. Mais en tous les cas, il y a un rapport d'altérité et d'écoute qui fait que le positionnement est totalement différent face à l'enfant.
Mmh. Alors, ça voudrait dire, peut-être pour que les auditrices, auditeurs comprennent bien, donc toi, tu dynamites en fait ces catégories. Ce qui est sous-titré, enfin, c'est même le titre, c'est « La fabrique de l'enfance ». Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est une construction. Et plus encore, il y a, c'est le sous-titre, « Anthropologie de la comédie adulte ». C'est vraiment une mise en scène qui nous enferme tous dans une comédie que donc nous jouons tous, consciemment, inconsciemment, et qui est censée rapporter quelque chose à l'adulte. C'est... Est-ce que tu peux... parce que j'avais en tête... Je voulais partir sur la responsabilité. Qu'est-ce que tu fais ce que pose Sonia? Un adulte est censé être responsable de l'enfant.
Eh ben, cette question de la responsabilité, on peut la prendre... La meilleure manière de montrer la dimension de comédie, c'est de prendre à la lettre ce que ça signifie. Donc être responsable, c'est répondre de ses actes, répondre notamment être capable de répondre en première personne, c'est-à-dire je sais pourquoi et j'affirme que c'est une bonne chose de faire ça. Or, un moment en tout cas où l'adulte est pris en flagrant délit de comédie, c'est justement dès lors qu'il va s'agir d'imposer des choses aux enfants, finalement, c'est un discours de l'irresponsabilité. C'est comme ça, tu verras plus tard, la vraie vie. C'est-à-dire finalement, l'adulte ne répond plus en première personne, mais veut faire passer ce qu'il impose comme une nécessité. On pourrait dire que c'est pas Margaret Thatcher qui a inventé le fameux slogan TINA, hein, « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative, mais c'est une rhétorique qui est très utilisée souvent par des adultes dans des moments où ils se retrouvent à imposer à l'enfant un certain geste, un certain comportement. Et là, ils ne sont pas, on pourrait dire qu'à ce moment-là, ils sont irresponsables au sens littéral, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à répondre d'eux-mêmes et bien fondés d'un choix, mais là, on pourrait dire qu'ils se cachent derrière des normes sociales ou un conformisme majoritaire, par exemple, pour forcer à faire un apprentissage scolaire que l'enfant n'a pas envie de faire, mais il est très important de bien réussir à l'école parce que dans notre société, c'est la condition pour que, etc. Donc, prendre au sérieux la responsabilité nous amène beaucoup plus du côté, effectivement, de l'éthique et de la prise en compte de l'altérité de l'enfant, et certainement pas ce qu'on appelle, ce que Pascal appelait l'esprit de sérieux. Vous voyez, cette manière qu'ont les dominants d'imposer quelque chose qui, en fait, révèle leur propre soumission, mais qu'ils vont surjouer comme quelque chose de très important, juste pour réussir à mieux l'imposer. Donc il ne faut pas être dupe de cette rhétorique-là, je pense.
Parce que ce qui est intéressant, c'est de remettre... Alors là, on est déjà parti un petit peu au cœur du sujet, mais pour que les auditrices et auditeurs comprennent bien, toi, ce que tu suggères, c'est donc que ce rapport de domination par l'âge, qu'on ne pense pas forcément par l'âge ou par l'ancienneté, tu vas nous dire un petit peu, ça fait partie des autres rapports de domination. On connaît le rapport de domination par le sexe, on en a parlé, par le genre, par la race, par la classe. Et là, c'en est un autre, que tu, finalement, tout ça est relié. C'est une manière de... pour toi, la société... Et se partage non pas entre des individus, mais des représentations de domination et de dominé, enfin de dominant et de dominé.
Oui, les rapports de pouvoir existent dans la société. Et comme un rapport de pouvoir, dit brièvement, est quelque chose d'arbitraire et d'imaginaire, ça va toujours passer par la captation de variables sociologiques pour justifier un rapport de pouvoir. Donc nous ne sommes pas du même sexe, donc ça va se passer différemment pour les hommes et les femmes. Donc on pourrait dire que c'est une instrumentalisation, et l'âge est une variable parmi d'autres, et elle n'échappe pas à la possibilité d'être instrumentalisée par les rapports de pouvoir, c'est-à-dire au nom d'un âge, on va décider arbitrairement de quelque chose. Et le signe le plus évident, Antoine est en face de moi, il a 14 ans, dans la France d'aujourd'hui, à 14 ans, il est considéré comme mineur. Mais la seule variation de l'âge de la majorité en France, 25 ans, 21 ans, 18 ans, à nouveau 21 ans, 18 ans, enfin, à différentes dates depuis le XVIe siècle, montre bien que là, c'est les adultes qui décident où mettre la barrière. Et on pourra rentrer ou pas dans le détail, mais évidemment, il y a des enjeux à ça.
Ouais. On peut y aller.
Bah, par exemple, c'est la dernière catégorie sociale pour laquelle on assume la privation de liberté civile fondamentale. De dire, bah, vous, au nom de ce critère-là, ici-là, vous n'aurez pas le droit de travailler, donc l'autonomie financière, vous n'aurez pas le droit de lancer une procédure en justice. Vous devrez passer par vos propres parents, alors si c'est contre les parents qu'on veut porter plainte, c'est compliqué, ou des professionnels adultes, ou des tuteurs, tutrices, etc. Donc, minorité juridique, vous n'avez pas accès à la citoyenneté. Hein, quand on parle de suffrage universel, les féministes ont quand même bien dit qu'il y avait un problème d'appeler suffrage universel le suffrage de 1848, puisque c'est un suffrage universel masculin, donc il n'est pas universel. Et encore aujourd'hui, à l'école, on parle de suffrage universel. Ben non, c'est le suffrage pour les personnes de plus de 18 ans, donc il n'est pas universel. Donc dire à une catégorie de la population que la citoyenneté dans la démocratie française est une chose merveilleuse, alors que cette population en est exclue, ça montre l'aveuglement, pour le coup, des dominants par l'âge qui ne se rendent même pas compte. Tellement pour eux, c'est naturel d'exclure les mineurs de certaines libertés fondamentales.
C'est ça, ils sont dans une chambre d'attente. C'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Les enfants sont considérés comme étant dans une chambre d'attente avant de devenir enfin adulte et de réaliser le stade ultime, final et suprême de ce qu'est l'humanité, être un adulte.
Et pour des... voilà, on voit que là, le critère, ça va être un effet de seuil. Et pourquoi est-ce que 25 ans, pourquoi 18, pourquoi 16? Et je donne une anecdote dans le livre qui est significative. Le déplacement de l'âge de la majorité de 25 ans à 21 ans est sans doute dû à la conscription militaire. C'est-à-dire juste avant la Première Guerre mondiale, on pourrait dire que là, il y a un niveau de gênance des adultes qui atteint le fait qu'ils ont conscience qu'ils vont envoyer des enfants faire la guerre. Donc, passer la majorité à 21 ans, c'est envoyer des adultes faire la guerre, tout simplement. Enfin, on n'a pas la preuve de ça, mais en l'occurrence, il y a une concordance des dates qui montre à quel point cette variable-là, on peut la considérer comme une variable d'ajustement du point de vue des adultes par rapport à un certain imaginaire social. Et envoyer des enfants faire la guerre, c'est par rapport à la construction de l'enfance qui est en train de changer à ce moment-là, ça fait tâche, on va dire.
Comment... Alors, ce qu'il y a de très puissant dans ce rapport de domination, c'est que, enfin, que tu décris, c'est qu'on y passe tous. Enfin, c'est-à-dire, on ne peut pas... Enfin, on ne peut pas, si... devenir, c'est ce qu'on appelle le passing, noir quand on est blanc, ou homme quand on est femme, ou... Mais par contre, on est à un moment donné plus jeune et donc considéré comme enfant et on va tous devenir adultes. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Est-ce que tu peux nous décrire ça un peu pour intérioriser les choses et aussi si tu peux préciser. Donc tu l'as dit, adulte pour toi, c'est vraiment une construction. Et d'ailleurs, dans ton bouquin, tu écris adulte avec un A majuscule, TM, trademark, une marque déposée.
Oui. Alors, je réponds à cette dernière question, et puis après, faut qu'on... parce que là, tu poses beaucoup de questions par rapport au livre, donc la parole circule pas beaucoup, mais ça pose quelques cadres. Si je reviens sur la question des catégories, une des choses importantes de l'analyse philosophique et notamment matérialiste, et là je pense notamment aux travaux des féministes matérialistes, c'est de montrer que là les catégories sont une pure invention, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour qu'un rapport de pouvoir s'impose à l'imaginaire collectif. Donc c'est pour ça que... il n'existe pas des hommes et des femmes, il n'existe pas des noirs et des blancs, il n'existe pas des adultes et des enfants. Ce sont des manières dont nous sommes perçus socialement par le regard des autres. Donc l'idée, c'est pour ne pas oublier que cette substance, comme on dit en philosophie, est une croyance erronée. J'ai fait exprès justement de mettre une majuscule par moquerie ou par ironie. Parce que dès que les dominants, l'esprit de sérieux adore mettre des majuscules. C'est-à-dire que pour montrer l'ironie de la chose, c'est qu'à partir du moment où on dit humain, on prend l'habitude de dire humain pour désigner les êtres humains. Au passage, c'est ce que fait la langue anglophone pour les droits des humains, très rapidement. Les Français, donc les francophones, vont s'arc-bouter en disant « Non, on a inventé le texte et on a écrit à l'époque les droits de l'homme ». Et donc, ils refusent dans les médiations internationales de changer l'expression, alors que dans toutes les autres langues, on fait attention à ne pas parler que du masculin. Et la justification, c'est de dire « Oui, mais évidemment qu'on parle des humains, puisqu'on a mis un H majuscule à homme ». Pour mieux s'enfoncer dans leur patriarcat, en fait, ils se... Et donc là, c'est un peu un clin d'œil à ça. C'est-à-dire, voilà, l'adulte, c'est la forme parfaite, accomplie, etc. Mettons-lui une majuscule, puisqu'il a l'air de tellement y tenir. Et le trademark, c'est aussi ironique pour dire... C'est du marketing, en fait. Ne soyons pas dupes d'une catégorie qui cherche d'abord à se donner une aura, à donner une aura aux personnes qui bénéficieront de cet étiquetage-là et qui donnera des privilèges. Donc, plutôt que de dire les adultes tout le temps en mettant un minuscule et puis en précisant que les adultes, pour le coup, quand on s'intéresse à ce rapport de pouvoir-là, ça peut être aussi bien des femmes que des hommes, des mères que des pères, des personnes racisées. Ça concerne toutes les classes sociales. Ce problème-là, il est aussi bien dans les classes populaires que dans les classes bourgeoises. Je suis allé en disant l'adulte. J'ai tout accordé au masculin, c'est-à-dire que l'adulte a ce privilège, entre guillemets, ironique, de ne pas subir l'écriture inclusive, contrairement à tout le reste du manuscrit. Donc voilà, j'ai fait exprès d'en faire des caisses pour pas qu'on oublie qu'en fait, que quand on parle de ça, on parle un peu de rien. Et il faudrait surtout pas croire qu'on parle d'être humain réel. On parle vraiment d'un privilège, d'une étiquette. Et c'est pour ça qu'après, des êtres humains ont envie de coller à cette image-là. Parce que l'image, elle est marketée pour donner envie. Et c'est pas que elle donne envie, c'est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la seule rapport de pouvoir qui est assis légalement. Mmh. Je veux dire, quand vous n'êtes pas dans un état racial, ségrégationné, etc., vous avez encore à lutter contre plein d'inertie du point de vue des mœurs, du point de vue des préjugés racistes, etc., mais vous n'avez pas une apartheid légalement mise en place. Là, on a une apartheid d'âge, j'assume l'analogie, qui est légalement mise en place. Donc c'est pas, c'est à la fois de l'imaginaire, mais c'est l'imaginaire qui a une forme juridique très concrète, ce qui est un des rares cas dans les rapports de pouvoir, en tout cas dans notre pays.
J'aimerais entendre un peu, si tu veux réagir déjà, est-ce que tu as entendu là, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent...
Ouais.
C'est vrai que c'est très rarement qu'on remet en question ça, ça paraît logique. Mm-hmm. Après, mais c'est vrai que c'est rare qu'on remette en question cette question-là de l'ancienneté.
Et toi, par exemple, en tant que mineur, ce qu'on appelle, est-ce que tu as envie d'être adulte ?
Au jour d'aujourd'hui, non, je vis ma vie, mais ça arrivera bien un jour, quoi.
Oui, que tu le deviennes.
Oui.
Mais pas forcément, c'est pas... Enfin, est-ce que pour toi, ça te semble désirable d'avoir ce statut-là d'être adulte ?
Ça dépend pour quel sujet. Il y a des choses pour lesquelles j'aimerais bien être adulte. Et...
Par exemple ?
Conduire une voiture, je sais pas, des trucs d'adulte, quoi. Mm-hmm. Mais il y a des choses que je préfère en restant enfant.
Sonia ?
Non, j'étais contente de... J'avais envie d'entendre ton point de vue. Ça m'intéressait d'entendre ton point de vue. Non, il y a plein de choses, en fait, qui me viennent. Moi, c'est des questions qui m'habitent, avec lesquelles on discute beaucoup avec Sébastien, sur vraiment le positionnement, ce que... c'est quoi un adulte en face d'un enfant, mais quelle posture l'adulte va mettre en œuvre en face de l'enfant pour s'ouvrir à lui-même. Je parle de l'adulte à lui-même,
ouais.
et de s'ouvrir du coup à l'enfant qu'il a en face de lui et l'enfant qu'il a été lui. Parce que c'est ça en fait qu'on ne remet pas en cause, c'est-à-dire on a reçu des choses assez fortes qui nous ont enfermés les uns et les autres. Des choses qu'on accepte, d'autres qu'on accepte moins, des choses qui sont visibles, des choses qui ne sont pas visibles. Mais quand on se retrouve en face d'un enfant qui soit le nôtre, ou nous dans notre métier qui soit plein de petits-enfants qui ne sont pas les nôtres, ils vont venir interpeller ça, de toute manière. Alors on peut faire semblant que ça n'existe pas, mais à partir du moment où on ne fait pas semblant, et ben, ça va nous confronter. Parce que ben, y a des enfants... des fois qu'ils vont avoir des réflexions, on va se dire, c'est un enfant, comment il peut me dire ça, en fait? Il me le dit, je peux peut-être me dire, c'est juste un humain en face de moi, un petit humain, peut-être, il est de petite taille, mais peut-être il peut m'apprendre des choses auxquelles je n'avais pas pensé, ou qui sont tellement enfouies dans l'iceberg de l'inconscient que... Ben là, d'un coup, il vient remettre ça sur le plateau et me dire, ok, est-ce que je peux, est-ce que moi, en tant que pédagogue, en tant qu'humain, je peux me mettre à sa taille? J'ai pas la phrase en tête, mais sur notre site, c'est vraiment comment je vais me mettre à la hauteur des sentiments de l'enfant. Il va pas s'élever vers moi. C'est moi qui vais m'abaisser vers lui, qui vais m'abaisser pour... regarder, écouter, entendre, mais avec mon cœur, avec mes cellules, avec mon âme. Vas-y.
Non, mais j'ai juste envie de dire, en fait, quand tu dis abaisser, on aurait là aussi peut-être l'impression d'une hiérarchie, alors que dans ce que j'entends, c'est abaisser, c'est-à-dire se rapprocher plus de la terre, de l'humus et de ce qui nous fait, nous, humains, c'est-à-dire d'être plus proche de ce qui nous fait être humain, en étant en dialogue avec un autre être humain.
Quand je dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, et ce abaisser, il est parce qu'il y a, pour le coup, réellement...
Oui, une différence de taille.
Une différence de taille. Et une des premières choses qu'on apprend en pédagogie, enfin en tous les cas, à la petite maison, c'est... mets-toi à la taille de l'enfant si tu as besoin de lui parler. Baisse-toi à sa taille, mets-toi en face de lui, qu'il te voit. Et pourquoi ? Parce que quand tu es au-dessus de l'enfant, tu es en rapport de domination. Et l'enfant, il peut déjà, d'ores et déjà, faites l'expérience. Moi, je suis très petite, donc j'ai toujours des gens au-dessus de moi. Et ça me demande de m'élever à l'intérieur de moi toujours pour « Ah, ok, je suis à la même hauteur que toi, en fait. » Et l'enfant, il fait ça tout le temps. D'abord, le monde, en plus, en France, rien n'est fait pour les enfants. Tu vas n'importe où avec tes enfants, il est toujours plus petit. Et pour qu'il soit à hauteur, il va falloir le hisser dans tes bras. Il n'y a pas de chaise pour enfants au restaurant, tu vas dans un bar, rien n'est prévu pour un enfant. Tout en France est dit que l'enfant est à l'extérieur du monde dans lequel on vit. Voilà. Du coup, à la petite maison, c'est vrai que c'est leur maison. Tout est à leur taille. C'est nous. Il n'y a pas de chaise à hauteur pour nous. Nous, on va se mettre à cette taille-là pour protéger, en fait, ce temps de l'enfance qui est le terreau de ce que tu deviendras adulte, en fait. Sur cette tranche d'âge, là, 0-3 ans, c'est... C'est vraiment, tu parles d'humus et tout ça. Nous, à la petite maison, le statut juridique, c'est assistant maternel, mais notre statut à la petite maison, c'est on s'appelle jardinier, jardinière d'enfants. Pour ça, parce qu'on cultive la terre qui est en l'enfant. pour que on l'alimente, on y met du terreau, on y met de l'herbe fraîche, jusqu'à ce que on puisse un jour semer des graines qui fleuriront et qui donneront ce que l'enfant doit être. On cultive vraiment la profondeur de l'être, en fait. C'est quoi l'être qu'on a en face de nous? Chaque enfant qui arrive chez nous est différent. Ce n'est pas un enfant dans une catégorie. Tu n'es pas un enfant. Tu es une personne avec un prénom. C'est pareil, hein. Jamais on va appeler les enfants mon petit chouchou, ma petite. Ils ont un prénom qui leur a été donné par leurs parents. Un jour, peut-être, ce prénom leur plaira plus. Ils en changeront, mais on peut les nommer. Voilà, c'est toutes ces petites choses, c'est-à-dire on essaie vraiment de regarder l'être qu'on a en face de nous. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et qu'est-ce que moi, avec ce que je suis adulte, comment je peux l'aider? Est-ce que je peux comment je peux l'accompagner? Tu parlais de ça tout à l'heure, on est là pour les soutenir dans leur chemin de vie. Mmh. Voilà. On est des guides, mais parce qu'on a une expérience aussi. Hein. Mais l'expérience, elle va être bousculée aussi par un enfant qui vient, par exemple, qui a des compétences cognitives extrêmement fortes avant 3 ans et qui va parler comme on est en train de parler et qui va comprendre. C'est pas seulement parler, c'est qu'il va comprendre, il va interagir. Et tu vas te dire, mais moi, je suis toujours bousculée par ça.
Et, en fait, tu es en train de dire que ce qui t'est... Pardon, je provoque peut-être un peu, mais ce qui t'émerveille, c'est lorsque un enfant est comme un adulte.
C'est quand un enfant est lui-même. C'est quand un enfant, dans le cadre qui lui est donné, il peut être ce qu'il est. Il n'est pas contraint dans quelque chose. Il va pouvoir te dire en face, je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas envie de mettre mes chaussettes rouges. Mmh. Je voudrais mettre ces chaussettes bleues. Est-ce que je peux changer de chaussettes? Oui, ma maman, ce matin, m'a mis des chaussettes bleues, mais là, moi, je veux mettre les rouges. Bon, ben d'accord, mais les rouges. Uh-huh. Tu vois, c'est quand l'enfant, moi, il va venir m'interpeller à un endroit où je c'était pas attendu, mais je sens que c'est lui qui est. C'est lui, de son être, c'est pas quelque chose qui est contraint. C'est, ok, je viens chercher la limite.
Ouais, j'avais envie de rebondir sur ce qu'a dit Antoine et ensuite Sonia, parce qu'il y a quelque chose qui, me paraît vachement important pour comprendre la domination. C'est justement cette importance de la singularité et de la différence. Mm-hmm. Parce que, tu vois, dans la réponse d'Antoine, finalement, ça dit que le adulte, c'est un package. Tu vois, en disant, il y a des choses qui me plairaient et d'autres dont j'ai pas envie tout de suite. Et ça, en fait, on pourrait dire que c'est la base du consentement, de l'invention de sa propre vie, du fait de se découvrir dans sa singularité, de ses désirs, etc. Et la dimension oppressive de toutes les catégories sociales, c'est en fait de ne pas supporter l'altérité et la différence. Et donc c'est ce qu'on appelle des modèles hégémoniques. De même qu'il y a une masculinité hégémonique, une suprématie blanche, le package adulte, c'est ok, si tu veux la voiture, mais t'auras le marché du travail capitaliste pour te payer ton essence et ta bagnole, ça va avec. Donc le prix de la liberté de mouvement, ce sera une certaine idée de l'autonomie financière, entendue évidemment en régime capitaliste, avec un rapport de subordination salariale, etc. Donc là, on voit bien le piège entre un mixte de ce dont on t'a privé et donc on a rendu enviable, et t'as hâte de pouvoir enfin être émancipé. Et ça, on voit bien, je pense que beaucoup d'enfants et d'adolescents, en fait, veulent juste ne pas être contraint. Donc ça, c'est la dimension enviable de l'adulte, en gros, juste être un être humain qui dispose des mêmes libertés que tout le monde, mais dans le lot, il y a toute la dimension conformiste et normalisante qui débarque avec, où là, il va s'agir, par ce qu'on pourrait appeler une éducation oppressive, de préparer les esprits des enfants et des adolescents à accepter ce qui va aller avec la vie d'adulte. Et c'est là où on va arriver à des discours de, sur la responsabilité de type esprit de sérieux. Être un adulte, c'est voilà, être capable de se lever le matin sérieusement pour aller travailler dans le cadre de la vraie vie, etc., etc. Donc c'est cette question de la singularité et de la différence, elle est, comme souvent, le meilleur rempart en termes de sensibilité, de choix politiques et éthiques contre toutes les formes de rapports de pouvoir qui vont justement passer leur temps à outrepasser le consentement et à vouloir modeler les imaginaires pour qu'aucune singularité ne soit possible. Parce qu'évidemment, ça fait peur au rapport de pouvoir, à une structure sociale conservatrice. Si chacun, chacune invente d'autres formes de vie, voilà, c'est le capital, le patriarcat et tout ça vont commencer à être en PLS. Hein.
Est-ce que tu veux dire, parce que voilà, ça c'est cette notion qui me travaille aussi, on paraît incapable de penser la singularité, la différence, déjà sans catégoriser, qui serait peut-être un premier pas vers une hiérarchisation et donc un rapport de pouvoir. Ce serait ça un peu. Est-ce que du coup, c'est bien pratique. L'enfant, on le catégorise en tant qu'enfant et donc, eh bien, on hiérarchise adulte au-dessus d'enfant. On catégorise, toi tu es une femme, et donc moi je suis un homme, eh bien. Je suis au-dessus de toi. C'est ça un peu cette...
Oui, bah un des effets fondamentaux d'un rapport de pouvoir, c'est de pourvoir en légitimité. Dans la question de l'imaginaire, c'est très important. Donc les dominants, c'est ceux qui décident de qu'est-ce qui a de la valeur. Et la salle d'attente de l'enfance, c'est justement, ça va être l'endroit privilégié d'attribution de ce qui vaut. Donc à partir du moment où il y a énormément de pensées, de gestes, de choix de vie qui sont valorisés par conformisme social par rapport à d'autres, c'est difficile pour un être humain après de se sentir légitime. C'est viscéral. Enfin, l'exemple pour comprendre à quel point c'est viscéral, prenons l'orientation sexuelle. Donc, dans un rapport de pouvoir de société hétéronormative, c'est-à-dire qui valorise l'hétérosexualité, on sait combien ça peut être compliqué pour un être humain d'être OK avec un désir qui va être jugé comme marginal, déviant par la société hétéronormative. Et ça vaut pour tous les rapports de pouvoir. Et la place de l'adulte là-dessus est une place privilégiée pour imposer un ensemble de valeurs qui va justement rendre très difficile la construction de sa propre personnalité, de sa singularité, puisque finalement, à chaque fois, ça va semer des doutes existentiels en disant « mais qui je suis pour faire ça ? Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça ? Est-ce que vouloir changer de chaussette 3 fois par jour, c'est pas un truc de taré ?» Enfin, ouais, donc tout ce qui va disconvenir à l'adulte, ça va créer autant de failles et de fragilités dans l'être humain futur adulte qui aura été biberonné à ces normes sociales.
Mmh. Alors, en fait, ce que tu ouvres et ce qu'on peut réouvrir, c'est la puissance de l'imaginaire, s'autoriser, ouvrir à nouveau les vannes d'autres imaginaires possibles que ceux tracés et conservés par ce rapport de pouvoir d'adultes et d'enfants. C'est ça, c'est de libérer un petit peu les possibles qui sont en chacun des enfants. C'est un peu ce que tu disais, Sonia, faire voilà, que l'enfant devienne qui il doit devenir. Mais, pardon, moi j'ai une question, mais est-ce que c'est possible ? En fait, c'est ça, est-ce que c'est possible ? Par exemple, Sonia, tu reçois des enfants ça va jusqu'à 6 ans, c'est ça ?
Ça allait jusqu'à 6 ans.
Donc maintenant, c'est 3.
On peut parler de ça aussi, parce qu'on rentre vraiment là-dedans. C'est jusqu'à 3. Vas-y.
Et donc, ils vont jouir de cette possibilité de s'épanouir un peu comme ils le sont, mais c'est pas en vase clos, voilà, le jardin, il est pas sous cloche. Il y a d'autres interactions, donc avec toute une société qui semble être complètement normée dans ce sens, c'est-à-dire de rapports de domination de l'âge, voire de l'ancienneté, on en a pas encore parlé, mais voilà, de rapports d'ancienneté. Que deviennent ces enfants hors de ce jardin d'enfants merveilleux ?
Alors, ce que deviennent ces enfants ? Moi, ça fait 13 ans que je fais ça. Donc, il y a des enfants qui ont ton âge, Antoine, qui sont maintenant au collège, qui certains sont venus en stage, voilà. On peut retourner dans un système totalement traditionnel. Je pense que justement, l'enfant, à ce moment-là, aura des outils pour comprendre, en fait, dans quel système il vit. Le formatage moins fort petit, je pense, permet justement à l'enfant, après, d'avoir une réflexion politique, hein, parce qu'on est bien à cet endroit-là. Après, il y a d'autres courants, il y a d'autres écoles, on peut mettre les enfants dans d'autres écoles. Moi, je n'ai pas de choses très arrêtées là-dessus. Je pense en tous les cas que le système, en effet, scolaire tel qu'il est actuellement, en tous les cas en France, ne permet pas à l'enfant d'être créateur, en tous les cas à l'être, de s'épanouir pleinement. J'ai 3 enfants, ils y sont tous passés. Voilà, le dernier qui a 19 ans serait là, bondirait. Je pense qu'il avait les outils, en tous les cas, pour comprendre le système de domination dans lequel il était, entre autres, au lycée, puisqu'il le disait très clairement. Mais je pense, enfin, il faut savoir que dans le développement de l'enfant et dans notre développement, c'est-à-dire la petite enfance, c'est de 0 à 6 ans, même 0-7, on dirait. Si dans cette tranche d'âge, déjà, on propose autre chose, c'est-à-dire autre chose, c'est vraiment un rapport où l'enfant va pouvoir jouer, parce que là, on est quand même dans des processus où, à 3 ans, un enfant rentre en maternelle, son corps est complètement phagocyté, à part certains enseignants, attention, hein, y a des enseignants qui font un boulot magnifique, hein, mais ils sont dans une salle de classe presque 7 heures par jour, hein. Moi, je ne sais pas comment on fait ça. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi. C'est-à-dire, on parle du vivant. Comment on peut enfermer, à l'heure actuelle encore, des êtres, 7 heures par jour, assis derrière une table, alors que le propre de l'enfance, c'est de bouger. C'est le mouvement. Ah oui, ça nous fatigue. Hein. C'est fatigant, un enfant. Ça bouge tout le temps. Mais pourquoi il bouge tout le temps ? Parce que son cerveau, il bouge. Il fait des connexions neuronales. À la seconde, tout le temps, il a besoin. S'il ne bouge pas, ses connexions neuronales ne se font pas, en fait. Donc, oui, un enfant, ça bouge. Oui, on peut l'amener à se poser. Oui, on peut l'amener dans un espace de concentration. Mais il faut que ça soit pensé. Quand on me dit un enfant ne peut pas rester assis, se concentrer plus de 3 minutes, je dis pardon. Non, un enfant, quand il aime quelque chose, quand il a envie de faire quelque chose, quand ça ne lui est pas imposé, mais proposé, mais il a une capacité, même des tout petits enfants, à se concentrer très, très, très longtemps. Mmh. Donc, ce que tu soulèves pour moi, c'est le système dans lequel on vit, il est problématique. Mmh. Il est problématique et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait d'autres structures, d'autres façons de faire.
J'ai l'impression qu'il y a presque une haine du vivant, c'est-à-dire de ce qui déborde, de ce qui ne reste pas en place, de ce qui est mouvant, de ce qui est tout le temps en évolution et qu'on essaie de contenir dans des cases ou de faire mourir avec des pesticides s'agissant de la terre, si on reprend le vivant et puis ta métaphore aussi du jardinier, de la jardinière d'enfants, mais voilà, on a du mal avec ce qui est vivant et ce qui échappe, en fait, non ?
Ce qui est vivant, ce qui échappe, ce qui... ce qui bouge, ça demande de l'adaptation, ça demande d'être créateur en permanence. En fait, c'est dès que quelque chose va bouger dans un groupe, hop, il va falloir réinventer. Donc en fait, c'est de ça qu'on a peur, c'est qu'il faut être en invention permanente et accepter de se remettre en question tout le temps. Mm-hmm. Ça doit être vivant en fait, tout le temps, tout le temps.
Du moment où les adultes seraient peut-être un peu plus capables de cette remise en question, et là l'effet éducatif serait contagieux. C'est-à-dire dans quelle mesure, je sais pas ce que tu en penses, Antoine, par exemple, le système scolaire invite et nourrit la remise en question chez les élèves. Pourquoi est-ce que je vais en cours? Est-ce que j'ai raison d'obéir au prof quand il me donne un ordre débile? C'est-à-dire remettre en question ses propres choix. Et dans quelle mesure on a l'impression d'avoir vraiment le choix quand on est dans le secondaire, par exemple, au collège, au lycée. Mais l'adulte empêche, je pense, ou désencourage la remise en question chez les enfants, dans la mesure où lui-même n'est plus dans la remise en question, et peut-être ce serait trop douloureux, trop insupportable de voir des individus remettre les choses en question alors même que lui a renoncé. Et d'ailleurs cette difficulté est souvent sublimée par le topos de la jeunesse révoltée, de même que les dominants adorent faire ça, hein, de même que des femmes c'est inspirant, c'est doux, c'est fragile, c'est allégorie de la vérité, voilà. Non mais tu vois cette manière de valoriser un peu comme l'orientalisme, tu vois, l'orientalisme, une sorte d'attribuer des attributs positifs à un individu qu'on domine, l'enfance c'est la pulsionnalité physique, ça peut être la révolte, ça peut être les voyages, mais évidemment tout ça devra aussi avoir un terme, et à un moment donné il faudra...
C'est une autre manière.
Il faudrait être sérieux. Donc là, je pense que quand il y a des signes de remise en question chez les enfants ou chez les jeunes, les adultes se les expliquent plutôt que de les prendre au sérieux en disant « Oui, mais bon, il faut que jeunesse se passe. Un jour, lui aussi, il fera comme moi. » Donc il y a plein de garde-fous pour cantonner cette remise en question qui... devrait au contraire circuler. On pourrait dire que c'est la définition de la démocratie. Rien n'est définitif et on peut rediscuter de tout. De ce point de vue-là, les espaces scolaires ne sont pas très démocratiques.
Je sais pas, tu veux en dire quelque chose ?
Oui, c'est vrai qu'on peut réfléchir dessus, mais oui, c'est vrai, ça peut donner à réfléchir. Après, moi, personnellement, je n'ai jamais eu vraiment ces problèmes-là, quoi.
Parce que enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'était l'une de mes questions sur ma petite liste au départ. Comment on intériorise aussi ça ? C'est-à-dire, c'est quand même hyper puissant. C'est peut-être pas ton cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai parfaitement intériorisé ça quand j'étais plus jeune et encore maintenant en tant qu'adulte, de me dire il faut se conformer aussi à une idée de ce que c'est qu'un adulte, d'être responsable et d'être arrêté en fait, d'être parvenu à un stade, d'être arrêté, d'être fini quoi, d'être un être humain fini. Et c'est quand même très très puissant justement l'intériorisation de chacun. Enfin, ça, c'est quelque chose que tu soulèves aussi dans ton livre.
Oui, c'est ce qui fait que la domination, elle perdure. au-delà de la sortie de l'enfance. C'est-à-dire que c'est là où c'est très important de ne pas associer une domination à des personnes au sens physique. Mmh. Hein, c'est pas...
quelqu'un qui est méchant.
Voilà, et puis c'est-à-dire que l'adulte, au sens de l'état civil, celui qui a plus de 18 ans, son comportement va s'expliquer notamment par l'infantilisation qu'il a subie et qui continue d'agir à travers lui. Donc là, on n'en est évidemment pas sorti par un coup de baguette magique le jour de nos 18 ans. Donc effectivement, par définition, l'intériorisation, c'est des choses qui vont être incorporées, qui vont avoir une forme émotionnelle, une forme inconsciente, et donc quelque chose qu'on ne pourra pas décider d'abandonner comme on déciderait de prendre le sel sur la table. Donc l'intériorisation, tu dis moi-même adulte encore aujourd'hui, et c'est pour ça que je préfère parler de domination par l'ancienneté que de domination adulte-enfant, parce que les processus d'infantilisation instrumentalisent l'âge biologique, mais sont évidemment des processus qui sont capables d'agir dans toute catégorie de la population. Si on prend les affaires de sévices dans les bâtiments privés, dans les établissements privés, qui est Bétarame, etc., on se rend compte qu'il y a aussi eu des violences très fortes exercées par les maîtres d'internat ou des lycéens responsables des dortoirs, donc des mineurs, mais sur des plus jeunes qu'eux. Quand on regarde les travaux d'inceste intrafamiliaux dans les fratries, c'est toujours les aînés sur les... Donc, les logiques de harcèlement scolaire aussi. C'est-à-dire que finalement, les enfants très vite peuvent intérioriser et appliquer entre eux ces logiques de domination par l'ancienneté. J'étais là avant toi, donc j'ai des prérogatives. Et évidemment, tout le travail sur le milieu professionnel, les différents statutaires entre titulaires, vacataires, stagiaires, etc., tous les rapports de domination par l'ancienneté sont encore très présents au sein des adultes. Donc c'est ce différentiel d'âge où on en parlait dans la voiture, dans les familles, les positions sont fixées et elles sont fixées à vie. C'est le principe de l'ancienneté. Quelqu'un qui est né 20 ans avant vous et qui est votre père ou votre mère, vous ne lui passerez jamais devant. C'est pas la tortue, le lièvre et la tortue. Donc c'est paradoxalement un privilège qui est relatif. C'est-à-dire on peut avoir été un enfant et devenir un adulte, mais par rapport à telle personne donnée, c'est absolu. C'est pas relatif. C'est-à-dire la personne qui a plus d'ancienneté que nous parce qu'elle était là avant nous, elle sera toujours, c'est irrattrapable. Donc il y a du passing vis-à-vis de certaines personnes, mais il y a un passing impossible vis-à-vis d'autres personnes. Ça fait partie, on va dire, des joies intellectuelles de compréhension de cette domination qui a des propriétés assez différentes des autres dominations parce qu'elle s'accommode beaucoup du mouvement. Elle n'est pas beaucoup essentialiste, comme homme-femme, par exemple. On va plutôt mal voir la transidentité, ça va être la double peine, alors que là, il y a beaucoup de transitions qui sont encouragées, deviens un adulte, grandis un peu, et en fait, c'est par ailleurs quelque chose d'extrêmement rigide. Donc ça joue sur la fluctuation chronologique, et en même temps, on n'a pas des places plus définitives que la place du patriarche, par exemple, qui est indétrônable dans la famille.
Au bout de la table.
Au bout de la table.
Antoine, est-ce que tu as des frères et sœurs ?
Ouais, j'ai un petit frère.
Et est-ce que tu sens, enfin, c'est compliqué à dire, mais dans la relation à ton petit frère, est-ce que tu te sens responsable? Est-ce que tu te sens, comment tu es?
Oui, bah c'est vrai que en fait le rapport à l'ancienneté il est partout. C'est les plus grands, c'est eux qui sont tuteurs quoi, qui vont accompagner, voilà.
Mais ça, justement, ça me permet. Enfin, j'avais une question tout à l'heure et tu me permets de la poser. On redit tuteur. Il y a cette idée de protection. Et toi, Sébastien, tu remets. Enfin, tu bats en brèche cette idée de. Il faut. Est-ce que l'enfant a vraiment besoin d'être protégé ou est-ce que c'est pas l'adulte qui a besoin de se protéger lui-même de ses, en fait, de ce que tu disais un petit peu, Sonia, c'est-à-dire de ce qu'il ne veut pas voir de lui, de toutes ses failles. Et donc, on a l'impression, dans ce que tu dis, et puis que c'est toute une construction de l'adulte pour surtout s'épargner de voir en réalité toutes ses qualités qu'il ne veut pas voir en lui qualités qui seraient sensibilité, qui seraient justement des qualités qu'on donne à l'enfant, mais surtout qu'il ne faudrait pas accepter ou accueillir en tant qu'adulte.
Je ne sais pas si on prend le cas de ton rapport, parce que c'est un bon exemple, le fait que tu sois un grand frère, parce qu'on pourrait dire qu'en tant que mineur dans l'absolu, tu es plutôt du côté des dominés, mais dans la relation de fratrie, tu es plus ancien que lui. Est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle de protection, d'avoir à protéger ton petit frère ?
Bah oui, oui. Enfin, oui, ça me paraît logique, ouais.
Et est-ce que tu attends la réciproque de sa part ?
Non, pas forcément. Enfin, ouais. Non, je pense que c'est surtout moi qui dois le protéger, ouais.
Donc lui, tu penses, est-ce que il pourrait te protéger des situations où sa protection te serait utile ?
Non, je pense pas.
Ouais. Et il a quel âge ?
Il a 6 ans.
D'accord. Et pour moi, enfin, cette réaction, c'est ça va pas de soi. Considérer et en fait il y a des arguments et t'en avais parlé un petit peu, il y a des arguments biologiques massifs, hein, tu vois le poids d'un corps, la taille d'un corps, on se dit bah oui il y en a un qui protège l'autre et c'est pas réciproque, mais il y a une grosse différence entre, on va dire, peut-être des cas extrêmes ou des situations très particulières où la réciprocité sera dure à penser et la propension à généraliser ça dans la domination par l'ancienneté. Parce que sur plein d'aspects, peut-être sur des aspects émotionnels, on peut considérer que c'est les enfants, alors plus ou moins librement, qui prennent en charge l'adulte. Et quand c'est libre, ça peut être beau, mais quand c'est finalement de la prise en charge, parce que bah ça, par exemple, les travaux d'Alice Miller, grande psychanalyste qui a travaillé sur la pédagogie noire et le châtiment corporel, elle montre à quel point, quand les adultes sont déglingues ou les parents sont déglingues, l'enfant se retrouve contraint à une prise en charge émotionnelle de ses parents qui va être... qui détruit en fait, qui est destructrice psychiquement, émotionnellement, parce que l'enfant s'est retrouvé à une position, à une place de réparation qui n'était pas la sienne. En plus, il n'avait pas les clés pour comprendre ce qu'il y avait à réparer. Donc forcément, il essayait de bricoler un rôle, des prises en charge. Donc tout ça pour dire que le discours sur la protection, dans mes analyses, je le mets vraiment, j'essaie de le remettre à sa place, c'est-à-dire que nous sommes, du point de vue des éthiques du care, nous sommes des êtres humains vulnérables, interdépendants, et nous avons à prendre soin les uns des autres mutuellement. Et là où il y a un rapport de pouvoir qui raconte n'importe quoi, c'est à partir du moment où on impose de l'unilatéralité. Je suis là pour te protéger, tu es incapable de te protéger toi-même, déjà ça ne va pas de soi, c'est-à-dire tu es un danger pour toi-même, c'est la logique de la censure. Hein. Tu n'es pas capable de lire ça, donc je vais te l'interdire parce que ça te... Et a fortiori, tu ne peux pas prendre soin des autres. Et ça, c'est extrêmement violent symboliquement de dire à quelqu'un, tu ne peux que recevoir, tu es incapable de donner. Mmh. Et les anthropologues, enfin, je cite plusieurs fois Lévi-Strauss, pour les anthropologues, c'est une évidence, parce que dans toutes les sociétés humaines, les échanges, c'est des dons et des contre-dons. Et quand un groupe social impose un don et refuse le contre-don, il ne fait qu'assurer sa supériorité statutaire. C'est certainement pas de la générosité. Mmh. Et d'ailleurs, Lévi-Strauss réanalyse le rituel de Noël, le rituel consumériste de Noël, au moment où il apparaît en France dans les années 50, parce qu'on n'a pas toujours fêté Noël en se faisant des cadeaux, c'est très récent. Et il l'analyse de ce point de vue-là. Il dit, pour lui, en tant qu'anthropologue, il assiste à la naissance d'un rituel où les adultes s'assurent une supériorité statutaire en offrant des cadeaux et en refusant structurellement la réciproque. Et d'ailleurs, à partir du moment où il est attendu qu'on fasse un cadeau à ses parents, souvent c'est qu'on a un certain âge, voire qu'on est soi-même devenu adulte. Donc c'est une forme d'accueil dans la communauté adulte. Toi aussi, tu peux donner et prendre soin des autres.
Ouf, ça y est, tu es parvenu, voilà, à l'état suprême d'adulte. C'est la fin de cette émission. Si vous voulez dire juste un mot, il nous reste une minute. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire encore quelque chose. Sonia, Antoine?
Non, moi j'aurais plein de choses à dire là sur ce qu'il vient de dire, mais voilà. Non, c'est chouette d'entendre parler de ça autrement, en tous les cas. Je trouve ça pareil, ça bouge les esprits.
C'est stimulant. On espère que ça va phosphorer, stimuler, peut-être faire son chemin dans chacune des têtes et corps. Merci beaucoup à tous les trois, Antoine, Sonia, Sébastien d'être venu autour de ce micro pour parler de la fabrique de l'enfance et la domination par l'ancienneté. Je rappelle quand même ton bouquin vraiment qui suscite vraiment la réflexion, c'est donc La fabrique de l'enfance, anthropologie de la comédie adulte à lundi matin. Et puis La petite maison de Sonia qui est au Vence pour les enfants de 0 à 3 ans. Merci beaucoup Plex pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver donc le salon impromptu le dimanche à midi. Et puis sinon, c'est sur notre site internet fréquence7.net. Merci, ciao.
I forgot to introduce myself.
Taylor, you remember me?
Whoever's behind this operation sells direct to the buyer. No middlemen.
I'm a craftsman.
Salon impromptu.